L'entrepreneuriat social peut-il changer le monde ? Soirée exceptionnelle mardi 11 mai à Sciences Po Paris, dans le cadre des Alter Mardi, parlons solutions.
Je dois vous avouer qu'il y a quelques années, je ne savais même pas ce que c'était que Sciences Po.
Saïda Hamouche, fondateur et directeur général de Mosaïque Ressources Humaines.
Dans mon univers, une grande école, c'est quelque chose d'assez inconnu.
Une soirée rigoureusement en deux parties pour se demander, leur demander si les entrepreneurs sociaux peuvent changer le monde. Mais tout d'abord, où en est l'entrepreneuriat social ? Didier Hadès, la rue des entrepreneurs sur France Inter.
Il y a quelques années encore, est-ce que l'entrepreneuriat social aurait fait autant d'auditeurs, hein ?
Sûrement pas. C'est pas un phénomène de mode, c'est tout simplement le bouche à oreille et l'ouverture de chacun d'entre nous sur le reste du monde. On est en train de commencer à regarder nos voisins et le monde simultanément. On est global, comme on dit à Davos, global et local, et on s'aperçoit qu'il y a des choses qui coincent et que chacun se sent un peu acteur. Et c'est ça pour ça que ça marche. Ça va marcher.
Qu'est-ce qui va marcher, ou plutôt est susceptible de se mettre en marche ?
Les sujets sociétaux, les sujets sociaux sont la prochaine frontière.
Geneviève Ferronne, directrice du développement durable de Veolia Environnement.
C'est pas que l'environnement va s'effacer, pas du tout. Je crois que l'environnement maintenant s'est généralisé. On a compris qu'on était sur des tensions et des contraintes, qu'on allait rentrer dans un siècle de la rareté. Mais on a aussi compris que le versant le plus aigu allait se trouver en fait sur les sujets sociaux. C'est-à-dire comment est-ce que je partage les ressources ? Et le partage équitable des ressources, c'est réellement dans le champ de l'entrepreneuriat social. Donc je ne suis pas du tout étonnée que les jeunes aient un engouement sur ce sujet parce que c'est un sujet de leur génération et c'est à mon avis quelque chose dans lequel nous aurons besoin de toutes les intelligences.
Au cours des 20 dernières années, depuis le début des années 80...
Olivier Kayser, président fondateur d'Istra, société de conseil qui met au point des stratégies qui concilient aide au développement et profit afin de réduire durablement la pauvreté.
Il y a eu un véritable mouvement, un espèce de tsunami d'innovation sociale qui a véritablement traversé le monde dans les pays riches mais aussi dans les pays de l'Est, en Asie, en Amérique latine. Ashoka d'ailleurs avait été créé au début des années 80 pour accompagner ce mouvement. Et à l'instar d'Ashoka qui depuis a financé le lancement de plus de 3000 entrepreneurs sociaux à travers le monde, il y a des dizaines de milliers d'entrepreneurs sociaux qui ont apporté des solutions pratiques, concrètes, efficaces à des problèmes sociaux dans le monde entier. On pourrait presque dire, ça serait peut-être un peu exagéré, mais que tous les problèmes ont été résolus à un endroit donné de la planète et que la vraie question aujourd'hui, c'est la diffusion insuffisante de ces innovations.
L'entrepreneuriat social est donc à un moment historique. Le laboratoire d'idées, lui, est plein. La machine à généraliser, elle, a un peu de mal à se mettre en route.
Quand on voit, par exemple, le microcrédit, qui était une des innovations majeures, qui était relativement facile à répliquer à travers le monde, parce qu'on trouvait des mécanismes extrêmement semblables. Après 25 ans, 30 ans de diffusion, il n'y a encore que 5 à 10% des besoins de la planète qui sont couverts. On voit bien la lenteur de ces processus.
Où est-ce que le bât blesse ?
Les grandes entreprises, généralement dans le monde du business, sont les grands facteurs de généralisation des innovations. Ils sont très rarement à la source des innovations, mais ils repèrent des start-up innovantes qu'ils rachètent. Ce sont eux qui les amènent à grande échelle. Pourquoi ce mécanisme ne se produit pas pour les innovations sociales et en tout cas pour celles qui ont des business models rentables qui les sous-tendent ? Il y a une façon de comprendre ce phénomène, c'est simplement de regarder quel est le mécanisme qui est en place pour aider des start-up classiques à être achetés par des grands groupes. Il y a des capital risqueurs, il y a des dizaines de milliers de gens dont le métier consiste à investir dans les start-up innovantes et ensuite aller les vendre à des entreprises. Donc le processus ne se fait pas tout seul. Tout ce grand rouage n'existe pas. Il n'y a personne dont le métier consiste à aller faire le tri dans les actions des entrepreneurs sociaux pour identifier celles qui pourraient être potentiellement adoptées et mises en œuvre par une grande entreprise.
Et les pouvoirs publics dans tout ça ?
Le rapport Vercamer.
Hugues Sibille, vice-président du Crédit Coopératif.
C'est un rapport qui a été commandé par le Premier ministre François Fillon il y a 6 mois à un député pour lui faire des propositions sur comment développer et améliorer la situation de l'économie sociale et solidaire en France. Monsieur Vercamer vient de remettre son rapport au Premier ministre dans lequel il y a 50 propositions pour faire mieux reconnaître l'économie sociale et solidaire en France. C'est à la fois des propositions sur les financements, la présence dans les régions, le Conseil supérieur de l'économie sociale, donc différents domaines 50 propositions en tout.
Il est temps ?
Oui, bien sûr qu'il est temps. Les pouvoirs publics auraient tout intérêt à reconnaître davantage cette forme d'économie parce que c'est une économie qui crée de l'emploi. Dans les 10 ou 20 dernières années, là où des secteurs industriels et autres détruisaient de l'emploi, l'économie sociale et solidaire n'a pas arrêté d'en créer. C'est une économie qui crée de la cohésion sociale, qui souvent a une approche aussi environnementale intéressante. Donc les pouvoirs publics, au moment où on parle du Grenelle de l'environnement, où on parle de toute une série de sujets, auraient tout à fait intérêt à reconnaître ce type d'économie.
La 27e région, c'est une petite équipe qui a été mise en place par l'Association des régions de France pour transformer les politiques régionales en faisant appel à l'innovation sociale.
Christian Paul, député de la Nièvre et président du laboratoire des idées du Parti Socialiste.
Les régions avaient conscience aussi que parfois elles tournaient en rond dans leur bocal quand il fallait construire des lycées, mettre en place des politiques de formation professionnelle, créer des maisons de santé. Et donc nous travaillons beaucoup par résidence en embarquant des entrepreneurs sociaux, des designers, des architectes, des sociologues.
Vous êtes en train de me dire que c'est tout simplement de l'économie.
Oui, c'est de l'économie, mais c'est de l'économie différente. C'est-à-dire que c'est de l'économie qui se veut respectueuse des hommes, respectueuse de l'environnement. Pour une raison, c'est que sa première finalité n'est pas le profit. C'est une économie qui sait qu'il faut équilibrer les dépenses et les ressources, mais son objectif n'est pas d'abord d'avoir des profits importants. C'est d'apporter simplement des réponses aux besoins, d'être utile, d'être une économie utile. Et donc, quand on voit aujourd'hui la crise dans laquelle on est, les excès à travers lesquels on vient de passer dans les dernières années, il serait vraiment important que les régulateurs français ou internationaux, y compris le FMI, s'intéressent à ce type d'entreprise.
Si on recapitalise le vrai capital, c'est-à-dire les individus, les infrastructures, là, c'est quelque chose qui est promis à un grand avenir.
C'est particulièrement compliqué. Ce sont des mondes qui, culturellement, sont très éloignés.
Arnaud Moureau, est-ce que votre maman est fière de vous ?
Je crois qu'elle commence à comprendre ce que je fais et du coup, je crois qu'elle commence à se dire que c'est peut-être pas si mal.
Arnaud Moureau, directeur d'Ashoka Europe francophone.
De m'avoir encouragé dans cette voie-là.
L'entrepreneuriat social peut-il changer le monde ? Jean-Marc Borello, le directeur du groupe SOS, reste ferme sur les prix. L'entrepreneuriat social n'est pas la machine à réinclure, les laissés pour compte de la machine à exclure. Il n'est pas là, en somme, pour réparer les pots cassés du libéralisme. Comment peut-il changer le monde ? Par une forme de cynisme, éventuellement. À quoi bon remplir encore des estomacs déjà pleins, quand les estomacs vides de populations entières décapitalisées sont en soi un véritable gâchis économique ? Et puis il y a l'autre version.
Ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, c'est plus forcément une démarche de rupture, c'est une démarche qui consiste à concilier ce qu'ils ont appris, ce qu'ils vont pouvoir faire dans des entreprises peut-être traditionnelles, avec cette volonté de changer le monde.
Le futur n'est pas forcément le contraire de l'avenir, il est sur les bancs de la haute école.
Je ne pensais pas que ça serait plein comme ça l'était, et que personne ne partirait avant la fin.